C'est parti, il est la nuit. Nous avons 45 minutes. Merci d'être présent à cette session Tech Day sur le débugage d'applications WinRT. Donc, je suis Sébastien Beauvau.
Je m'appelle Christophe Nazar.
Voilà. Nous travaillons tous les deux chez Microsoft dans la division service support, donc principalement chez nos clients et partenaires, pour traiter de sujets divers et variés liés au développement, forcément, donc des transferts d'expertise, du débugage, du code, des revues d'applications. Donc, vous avez nos blogs respectifs et nos adresses e-mail. N'hésitez pas à les utiliser si vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette session. Merci, Christophe. Comme vous l'avez vu, toutes les sessions sont notables, entre guillemets. Vous pouvez donner vos retours et vos commentaires. N'hésitez pas à le faire, cette session-là. Nous vous invitons à le faire. Merci.
Voilà.
Et c'est fini. Merci. Enfin, fini pour les slides.
C'est bon. Voilà.
Fini pour les slides. On a voulu se focaliser sur les démonstrations. C'est ce qu'on va faire jusqu'à la fin.
Voilà. Donc, objectif premier réussi. La session la plus courte en termes de slides, on ne pouvait pas faire moins. On est désolé. Alors, Sébastien et moi avons la chance de faire un métier fabuleux qui est de travailler avec des clients et de les aider à essayer de comprendre, à trouver des solutions sur leurs problèmes. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que ce qui serait bien, c'est qu'on partage avec vous le genre de soucis qu'on a pu rencontrer, que nos clients ont pu rencontrer, que nous aussi on a pu rencontrer sur le développement d'applications, que ce soit de la partie démarrage, il faut que j'inverse, la partie démarrage, la partie gestion du cycle de vie des applications Windows, et puis quand elles fonctionnent, et puis pourquoi pas après quand on les soumet dans le store. Donc on va essayer de vous montrer, à partir de scénarios qu'on a pu rencontrer, comment résoudre les problèmes, quels sont les outils qu'on utilise, quelles sont les manières de travailler qu'on a. Et puis voilà. On
donc
est parti.
La session est prévue pour niveau 300, mais on va tranquillement terminer en 400 et plus.
Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas se vanter comme ça.
Faut pas se vanter. Mais donc, premier cas de figure, effectivement, lorsqu'on développe une application, vous la débuguez avec Visual Studio, vous l'installez, vous la lancez. On peut la lancer en touchant sur la tuile ou en cliquant. Donc ça, c'est un cas classique. Mais on a surtout des cas où on peut activer l'application, on peut la lancer par des contrats, comme le file picker ou comme le partage. Et donc, dans ces cas précis, comment on débug une application qu'on lance par un contrat de partage, par exemple, Christophe, tu as un exemple ?
Alors ça, c'est un cas qu'on a beaucoup rencontré sous Windows 8, quand on avait le contrat de recherche, parce que le contrat de recherche était implémenté par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications pour pouvoir apparaître sur le côté de la fenêtre quand on faisait une recherche et être assez visible. Et ça, c'était un contrat qui permet de démarrer votre application sans cliquer sur une tuile. Et si vous avez fait un petit peu de développement WinRT, vous savez que, surtout en C#, on passe par des méthodes qui sont différentes dans le code. Donc il y avait pas mal de cas où l'initialisation de votre object model interne à l'application n'était pas initialisée dans le cas où on passait par cette activation sur le côté. Donc comment est-ce qu'on fait pour débugger ce genre de soucis ?
Tu as un exemple d'application qui accepte du partage ?
J'ai essayé de préparer un petit peu quand même. Alors on essaie de rester dans le thème, hein. Les couleurs sont les couleurs du thème. Alors j'ai une petite application, je me suis servi de l'application qui est fournie avec les samples du SDK, qui montre toutes les API du framework, et j'ai pris celle qui implémente le contrat share target. Donc l'exemple c'est, je vais regarder dans les sports, faut-il s'inquiéter pour Paris ? Je ne sais pas. Mais c'est très intéressant, donc je vais vouloir le partager avec mes amis, et je vais partager ça, et je vais choisir mon application. Et là, quand je choisis, c'est le drame. Ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est typiquement le scénario. Comment est-ce qu'on fait quand on fait ça ?
Parce que là, effectivement, concrètement, Windows nous affiche un petit message, mais il y a eu un crash applicatif derrière. Donc le code qui a été appelé de notre application pour accepter le partage a planté. Donc comment on débug ? Dans Visual Studio, à la limite, on fait un NFC.
Visual Studio, quoi. Donc comment je fais ? Je vais démarrer ma solution et F5, je lance une session de debugging.
Voilà, comme un implantage, une exception, on va forcément s'arrêter sur une ligne de code et pouvoir débugger ceci.
Autant qu'ils servent. Debug, start debugging. Je vais refaire mon scénario, je fais le sport, je vais partager et je vais... Ça marche.
Forcément.
Typiquement, le cas dont je vous parlais, là, on est un peu. C'est pas de chance. Comment on fait ? Parce que ça marche pas, mais ça marche. Alors, c'est ce que je vous expliquais. On passe pas par les mêmes endroits dans notre code.
Oui, parce que là, typiquement, lorsque tu as fait F5, l'application a démarré, en fait, sans qu'elle ait été activée par le partage, en fait.
Tu as tout compris. Tu as tout compris.
T'as une option, peut-être, Visual Studio pour.
Il y a bien un truc, hein. Il y a bien un truc. Alors, comment on fait dans ces cas-là ? Quand on démarre une session de debug dans Visual Studio d'une application, on passe par le contrat implicite qui est implémenté par toutes les applications Windows Store, qui est, le contrat de démarrage, de launch. Et c'est pour ça que dans notre code C Sharp, on passe par le on launch. Voilà, on passe par là, on passe par ici. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh ben, je vais dire à Visual Studio, dans les propriétés du projet, bon, pour ce projet-là, ce serait bien que j'arrête de le débugger. S'il te plaît, ce qui est bien, c'est que pour une fois, le texte est relativement clair. Ne démarre pas, mais tu débugs mon code quand il démarre. Je ne sais pas comment c'est en français, mais ça, je pense que c'est aussi clair que ça. Donc quand je fais ça, et que je fais F5, donc que je lance une session de débug, il ne se passe rien. Et c'est ce que j'attends. Il ne se passe rien, mais si jamais je veux activer mon application, alors là, je vais commencer à rentrer dedans. Donc je refais mon scénario, je vais dans le sport, je partage, je choisis, et là oui. Là je tombe bien sur mon exception qui a été attrapée par Visual Studio, puisque c'est un débugger, il est notifié des événements de débug liés à l'application, et il me dit j'ai un nulle référence exception. On va regarder ce que c'est, parce qu'il ne me semblait pas que j'avais nulle référence exception.
Ah ça c'est moi qui ai rajouté le changement du fond, oui, effectivement.
C'est une optimisation, peut-être.
J'ai pensé.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Puisque là, on est dans Visual Studio, on peut regarder la valeur de tous nos champs, etc. On est relativement confortable. Et donc, on a le mainframe qui est utilisé juste au-dessus, hein, qui est utilisé là.
Oui, ça, c'est la frame principale dans laquelle s'affiche nos fenêtres. Donc,
d'accord. Tu as voulu changer le couleur du fond.
Voilà, exactement.
En rouge ou en bleu pâle. Ouais, c'était une bonne idée, sauf que le mainframe est nul. Pourquoi est-ce qu'il est nul ? Parce que là, on n'arrive pas du même endroit que si je viens du on-launch. Donc dans le on-launch, je vais vous le mettre un peu plus grand, dans le on-launch, effectivement, on initialise la propriété qu'on va utiliser de l'autre côté, alors que dans le on-share target activated, on ne fait rien du tout.
Donc tu veux dire qu'il faut que je fasse attention dans mon code d'instancier mes objets ?
Il faut faire pareil ici.
Dans le on-launch,
il faut juste faire ça.
Dans l'activation, quelle qu'elle soit.
Et le mettre ici.
Ok.
D'accord.
Bon point.
Première solution. Bon point. Alors, est-ce qu'il y a un autre scénario ?
Moi, j'avais pensé aussi, j'avais fait une petite application pour s'activer sur un protocole particulier. Tu sais qu'on peut faire ça dans les applications Windows Store. Donc là, j'ai une application qui s'active avec activation 2 points. Tu sais, comme si on fait tel 2 points ou mail to 2 points. Donc d'accord. Là, si dans ton explorateur Windows, tu tapes. Activation de 2 points avec des paramètres, je suis capable de l'intercepter et de lancer mon application.
Donc si je fais ça.
Voilà. Là, tu fais dans la barre d'adresse activation. Tu vois, tu l'as déjà testé d'ailleurs.
Donc ça, si jamais je fais ça.
Voilà. Là, Windows sait qu'effectivement, j'ai mon application qui est capable de se lancer sur le protocole activation. Et qui.
Tu me montres les paramètres.
Voilà.
Donc, c'est un des moyens pour tester. Si vous implémentez un custom protocol, c'est un des moyens simples pour tester l'activation. D'accord ? Il y a d'autres moyens peut-être ?
Moi j'en connais, donc je connais celui-là, effectivement, c'est le plus simple.
Bon, alors moi je fais beaucoup avec le clavier, donc moi je fais Windows R pour run et j'active aussi.
T'as vu, je cumule, hein, t'as vu ?
De bien.
On peut faire aussi avec l'explorateur Windows éventuellement ?
Ouais, Windows E, pareil.
Donc là, on se base sur le shell Windows au final, donc c'est comme si tu tapais n'importe où, mail to 2 points, un email. Par code, par contre, on peut le faire.
Ah, on va le faire par code, ouais. Si ça vous intéresse, tous ces sujets d'activation, j'ai fait toute une série de posts là-dessus pour activer des applications desktop par des applications Windows Store et réciproquement. Si ça peut peut-être vous intéresser.
C'est pas le sujet du.
C'est pas le sujet, pardon. Donc, je peux pas m'empêcher, je parle trop.
Alors, par code, effectivement, si tu le montres avec. Voilà,
alors j'utilise ELSpy, c'est un décompilateur .NET. Pourquoi je peux l'utiliser avec WinRT ? Parce que les métadonnées, le format des métadonnées utilisées par l'équipe Windows, c'est le même que celui de .NET. Donc vous pouvez récupérer les fichiers .winmd qui sont installés avec avec le SDK Windows, et vous le voyez comme la liste des namespaces, etc. Donc là, ce dont tu parles, c'est que par code, si vous voulez faire votre propre launcher, faire des tests auto, des choses comme ça, passez par cette méthode-là, c'est la méthode launchUri A5, du type launcher.
Moi, j'utilise MSDN pour voir ce genre de choses.
C'est vrai, tu utilises MSDN, c'est vrai. Alors, il nous en reste un quatrième. Est-ce qu'il y a M. Richard Clark qui est dans la salle ? Bonjour, monsieur Clark. Monsieur Clark nous a. Il n'est pas du tout Microsoft, hein. C'est une pub complètement gratuite, heureusement. Et il a fait un outil qui est très bien, sur plein de choses. Vous allez sur le site C2I, sur Richard Clark, et on permet de trouver plein d'infos, notamment la taille prise par les applications une fois qu'elles sont installées, après qu'elles aient fait plein de téléchargements. Il y a beaucoup de features dessus, donc allez sur le site de Richard. Et une des choses qui permet de faire, c'est de tester aussi via l'activation. Il vous liste tous les custom protocols implémentés par toutes les applications. Donc vous pouvez ici, Richard...
Parce qu'effectivement, j'aurais pu en mettre plusieurs activations ou de travaux, etc.
Et pouf, okay. On l'a ici. D'accord ? On a fait le tour, là. 5. 5, c'est bien.
Voilà, ouais.
5, c'est bien.
Donc là, effectivement, pour cette activation-là, on peut aussi débugger la Visual Studio.
Ouais, on peut faire exactement la même chose. Exactement la même chose. Peut-être que je vais profiter de ça pour... Moi, il y a un truc qui ne me plaît pas trop dans ton implème. C'est j'aime pas parser les %20. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de web.
Ben là,
toi, t'aimes bien.
Non, mais je récupère la chaîne de Karata, ouais. Qui est passée. Donc,
Alors, qu'est-ce qu'on peut... Donc, si là, typiquement, ce que moi, je voudrais faire, c'est me dire... Ben, je veux mettre mon point d'arrêt sur le unactivated et voir qu'est-ce que je reçois comme paramètre.
D'accord.
Pour essayer de voir si je mets par hasard, il n'y en aurait pas un qui serait...
Donc par la même.
Moi, j'ai mis mon to-do, hein, je l'ai déjà fait avant, comme ça j'ai l'air moins surpris pendant les démos. Mais typiquement, je mets mon point d'arrêt, je fais mon propriété et do not launch, je fais F5 et je vais essayer de l'activer.
Activation.
Allez. Et pouf, je tombe sur mon point d'arrêt. Donc ça, c'est aussi pratique pour ça. Et là, si jamais je regarde ce que j'ai comme paramètre, je me rends compte que celui qui m'intéresserait, ça serait l'original string, si je veux l'URL complète, où je peux carrément passer avec le local pass pour les paramètres et le schéma. Donc là, c'est activation, comme tu disais. Si jamais il y a d'autres custom protocoles que vous implémentez, alors vous pouvez aussi faire des switches. Les types de protocoles.
Ok, donc okay, là c'est pour l'activation par protocole, par contrat, etc. À partir du moment où l'application est lancée, tu sais aussi bien que moi qu'on peut lancer l'application par quelques moyens que ce soit, et après c'est Windows qui gère la vie de l'application, c'est pas nous qui la terminons, etc. Il y a des événements comme le suspend.
Ouais, alors ça c'est une des autres nouveautés de WinRT par rapport au développement d'applications desktop, c'est que avant, quand l'utilisateur double-cliquait, il avait une jolie fenêtre avec une croix en haut à droite rouge pour la fermer. On a plus ça sur Windows et 8. Je ne sais pas si on l'aura dans 8.2 ou 9.0, mais ce qu'on a maintenant, c'est que Windows il peut optimiser l'utilisation des applications par le système. Je m'explique. Si jamais votre application passe au second plan, il va décider d'un commun accord avec lui-même de vous donner, après 10 secondes, un petit événement pour vous dire « bon, bah, je vais vous suspendre ». Ça veut dire que dans 5 secondes, je vais friser tous vos threads. Aucun de vos threads de votre application ne pourra tourner sur aucun des cores des CPU de la machine.
Voilà, mais comme on est entre nous, effectivement, vous connaissez cette subtilité-là.
Alors, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus.
Tu peux nous montrer une application qui fait du code dans le suspend ?
Pour lequel il peut avoir un souci au moment où il se suspend. Et donc la question, c'est comment je débug ce genre de choses. Donc j'ai une application qui s'appelle SlowApp. Et quand je la passe en arrière-plan, je vais lancer mon Task Manager. Mon application, elle est là.
Voilà,
et donc... dans la colonne statut, on devrait voir suspendu au bout de 10 plus 5 secondes. Donc on va attendre.
Maximum, voilà.
On va attendre. Et les petits CPU, là, donc il est en train de faire quelque chose. Et puis, elle devrait passer suspendue. Pouf. Donc là, typiquement, il y a eu un souci au moment où Windows a notifié mon application qu'elle devait se suspendre.
Voilà, donc
comment je débug ça ?
J'aurais tendance à dire F5 Visual Studio.
F5 Visual Studio. Pareil, si je mets...
Si tu la lances, tu la mets au premier plan, on rebascule sur le bureau, on va être suspendu.
D'accord. Premier plan, bureau,
voilà.
Task manager, et là.
Bon, par contre, on ne va pas attendre 10 secondes, ni 20, ni 30, parce qu'elle ne va jamais se suspendre.
Non, elle ne sera jamais suspendue. Quelqu'un sait pourquoi ?
Quelqu'un sait pourquoi ?
Ça s'appelle une feature. Est-ce que vous savez pourquoi ? Alors, c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle. Parce que quand un débuggeur débug un débuggy, il y a un canal de communication qui est créé par Windows pour permettre au débuggeur de faire des actions dans le code du débuggy. Donc si jamais Windows frisait tous les threads du débuggy, il friserait aussi le débuggeur. Là, ça marcherait beaucoup moins bien pour nous développeurs.
Donc d'où la question, comment on débug un problème, une exception qui peut arriver dans le suspended ?
Alors comment on fait ? Eh ben, on...
Tu ne vas pas me dire que tu as encore une option Visual Studio ?
Si, mais ce n'est pas dans le projet. C'est en plus une option qui est cachée par défaut. On a très bien fait les choses. On sait que vous êtes tous curieux. Et donc vous allez toujours chercher où est-ce que c'est. Vous faites bouton droit et vous cherchez dans Debug Location. Donc c'est celle que moi je mets tout le temps dans ma machine. Debug Location. Et dans Debug Location, vous avez la possibilité de déclencher des événements. Donc la suspension, le résume, le suspendant, le shutdown, on va en parler après. Donc si jamais je me mets dans le onSuspending, qui est appelé ici, et que je déclenche le suspend, si
jamais je fais suspend... Mets un point d'arrêt, non ou non.
Tu veux mettre un point d'arrêt ? Bah normalement ça devrait me planter si jamais...
Vas-y.
Hein ? Bah, je vais mettre un point d'arrêt, comme ça vous allez croire qu'on passe bien dedans. Je fais le suspend, et pouf, je passe dedans. Okay. Bah, je fais F5,
voilà, F5
et là...
Voilà, F5, une exception. Ouais.
J'ai pas d'exception. Ah, je sais, c'est... Ouais, bah, fallait pas faire un 4 ou 5 non plus. Je vous ai montré les cas simples quand il y a des exceptions, c'est les cas les plus simples. Parce que ça pète et on arrive à les récupérer. Là, j'ai pas d'exception. Mais ça marche pas.
On a un temps limite, j'imagine, pour
On a un temps limite. Si jamais vous avez écouté ma description théologique sur la durée de vie des applications sur Windows 8, je vous ai dit, vous avez 10 secondes avant que le système détecte que vous étiez passé en arrière-plan, et après vous aviez 5 secondes pour savoir... Enfin, pardon. 5 secondes pour sauver toutes vos informations. Donc ça, cette information-là, elle est passée en paramètres en plus. Donc je vais vous montrer très vite un petit code. J'ai le droit d'écrire du code un tout petit peu ?
Tu peux.
Je peux. On va faire terminer dans... Voilà. Et puis on va mettre E. Point. Donc ça, c'est le paramètre qui vous est passé. Suspending operation. Et c'est la deadline. Donc il nous dit, ce qui est bien, c'est que c'est juste read-only. Hein. Au début, je croyais que je pouvais mettre une valeur là-dedans. Je me suis dit, ah, c'est sympa, je vais mettre 10 minutes, je sais ce que je fais, ayez confiance. Non, non, non. Il vous dit quand est-ce qu'il va s'arrêter. Donc je fais ça moins maintenant. Donc datetime.now. Voilà. En revanche, je suis dans un debugger là. J'aimerais bien pouvoir tester ça sans être dans un espèce d'environnement un peu contraint, débugué. Donc il y a un autre outil.
Mais DBGView, SysInternals.
DBGView de SysInternals. Donc SysInternals, c'est un site où vous faites www.sysinternals.com.
Christophe, on est entre développeurs, on connaît encore.
Ça va.
Vas-y.
Alors j'ai un outil.
Lance-le. Voilà.
Je le lance.
Tu fais un petit CTRL F5 à la limite.
Et j'exécute mon application. CTRL F5. Voilà. Hop. On a une résolution de folie là-dessus. On va être en. Voilà, je vais mettre mon DBGView que j'ai perdu, forcément. Voilà. Et donc, maintenant que je suis là, celui-là, je le mets derrière.
Ok. D'accord. Donc, effectivement, DBGView va écouter les messages Windows et puis va pouvoir afficher notre trace et celle de Windows, à l'occurrence, s'il y en avait eu. Ok, donc ça, c'est intéressant. Mais
10 secondes.
Moi, je voulais voir, effectivement, si on débuguait dans Visual Studio.
Presque 5. Presque 5.
Ouais, 5 secondes, effectivement.
Tu voulais savoir si dans Visual Studio
parce que là, effectivement, on a vu que dans Visual Studio, si on débuguait, on n'allait pas forcément avoir ce timeout-là, parce que c'est pour ça que si on restait en débugage...
En fait, mon code qui n'est pas bon, il est dans le safe state. Dans le safe state, si on regarde le code, j'ai simulé quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Alors pour ceux pour qui ça manquait de faire un thread.sleep de quelque chose, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant. D'accord ? Donc, vous faites un task.delay de 7000 millisecondes, ça fait qu'il va mettre 7 secondes avant de revenir. Et comme on a dit que c'était 4,98897, il va nous planter avant.
Okay.
C'est bon ?
Okay.
La suite ?
Non, mais je passais à mon application activation URI, là, Ah oui. Parce que tu sais, quand je sauvegarde la mémoire, là, on peut vérifier si j'ai bien fait mon travail dans le suspended. Oh,
ça doit être sûrement bien fait. Activation Veri, c'est ça ?
Voilà. Mais à ce moment-là, tu es dans Visual Studio, ok, c'est sympa, mais si mon application est déjà installée, comment on pourrait tester le suspend, par exemple ?
Alors, mon application, elle est déjà installée, le suspend. On va faire ça. On va faire celui-ci. Et puis, parce que tu l'as bien fait, tu as mis un champ d'édition, j'ai pas besoin à chaque fois de rentrer des infos. Je passe derrière, comment je peux simuler ça ? Alors, ça peut avoir des intérêts quand on veut tester, par exemple, sur une autre machine sur laquelle on n'a pas Visual Studio ou ce genre de choses-là. J'ai fait un petit outil qui s'appelle Bye Bye. Bon, j'ai pas été très au niveau du nom, mais ça fait ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je suis là-dessus, hein, je suis sur ton application,
oui, je t'en prie.
J'appuie là-dessus, et lui, c'est un gros goré. Donc, il va, vous voyez la mémoire là ? Vous voyez la mémoire là ? Il va prendre tout ce qu'il peut, mais vraiment tout ce qu'il peut. Donc il simule le cas où dans la vraie vie, il y a d'autres applications qui prennent beaucoup de mémoire et plouf.
Et ça nous amène au cas où effectivement, notre code, on n'est pas notifié par code, mais Windows décide donc comme un accord de libérer la mémoire pour permettre à des tablettes ou d'autres de pouvoir avoir plus d'espace disponible.
Donc là, est dans un cas où normalement, l'utilisateur ne sait pas que ces applications sont décédées.
Je l'ai toujours dans ma liste d'applications. Ah, alors.
Si on regarde ici, on les retrouve, nos applications. Pourtant, elles ne sont plus là. Alors, un petit truc, si jamais vous voulez savoir si elles sont parties ou pas, les applications, vous voyez, celles qui sont là-dessus, elles n'ont pas le contenu de la fenêtre. Elles n'ont pas le live thumbnail. Elles n'ont que le logo et la couleur du fond. Ça peut vous donner une indication sur les applications qui ont été terminées. Et là, si jamais je le relance, ça redémarre vraiment l'appli. Alors, l'utilisateur, il voit le splash screen qui revient, mais normalement, là, j'aurais bien aimé avoir le texte de Baudelaire que j'avais tapé.
Donc, tu veux dire que j'ai mal fait mon travail ?
Non, je pense pas.
Ok, là, on a l'outil Bye Bye pour le tester à l'extérieur, mais est-ce qu'on peut le tester dans Visual Studio aussi, le terminaison là ?
On peut aussi le tester dans Visual Studio. Qu'est-ce qu'on peut pas faire dans Visual Studio ? Donc, comment je fais pour le tester dans Visual Studio ? Alors, tu vois, j'ai mis quelques petits commentaires pour faire une implémentation de comment est-ce qu'il faudrait faire. Ouais. Bah, je savais que j'allais être devant des personnes attentives. Alors, comment on fait ? Eh bien, c'est toujours pareil, on fait F5. Je vais peut-être mettre un petit point d'arrêt quand même. On va le mettre là, le petit point d'arrêt. Et je vais plutôt montrer mon fixe. Mon fixe, il est simple. Quand je vais recevoir l'événement de suspend, je vais sauvegarder mon état. Et quand je vais redémarrer mon application, parce que c'est au moment où je redémarre mon application, il y a le splash screen qui monte, que là, je vais être notifié que dans le launch, mais pas seulement, dans toutes les autres méthodes par lesquelles Windows peut me démarrer, eh bien, il va me dire, voilà, dans ton preview state, execution state, tu étais complètement cassé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais décommenter ça, je vais décommenter la sauvegarde, et je vais aussi décommenter la partie dans l'activation par les protocoles. Parce que comme je vous ai dit, je pourrais très bien redémarrer par une activation de protocole. Je pourrais mourir d'un côté quand j'étais lancé normalement, mais être réveillé de l'autre. Donc surtout, bien penser tous les coins, et je mets un point d'arrêt dans la sauvegarde. Je vais enlever de mon projet, parce que je veux quand même que ça démarre, et je fais F5. Donc ça démarre, je tape ce que je veux dedans,
voilà.
Je reviens.
Forcément, il ne va pas être suspendu, tu utilises la boîte.
Voilà. Et là, il y a, de même que j'avais un suspend, je peux faire suspend and shutdown. Alors shutdown, je pense que le mot n'est pas bien choisi, parce qu'il ne va pas éteindre votre machine. Ils auraient dû mettre suspend and terminate. Peut-être que ce n'est pas compliant de terminate, Schwarzenegger, tout ça, on ne sait pas. Donc suspend and shutdown, vous voyez, mon application, elle arrive sur mon point d'arrêt. C'est bien, c'est ce que je veux faire, je vais faire F5. Et après, je sors, puisqu'il a fait suspend et terminate.
Voilà.
Donc, il sort du debug.
Ok. Mais là, comment je teste si tu as bien recherché les données ?
Alors, d'abord, je vais continuer à faire de la pub. Hein. Ça, c'est mon implem qui va lire dans activationhistory.txt. Quand vous voulez vérifier le contenu de choses qui ont été sérialisées au niveau de vos app data pour votre application, Richard a pensé à vous. Et dans son outil, vous pouvez, sur mon activation Veri, si je vais dans les folders, vous pouvez accéder à l'endroit où sont sauvegardés vos locales, vos temps, vos roaming et vos local data. Donc là, j'ai mon activation history avec mon, mon Baudelaire. J'aurais peut-être pu mettre du texte un peu plus clair, mais croyez-moi, c'est ce que j'ai tapé.
Ok, mais ça ne me dit toujours pas si on recharge bien les données. Là.
Ah, pardon. Est-ce que je recharge bien mes données? Ben, je vais faire CTRL F5. CTRL F5, je les ai bien chargés.
Ok.
C'est bon?
Ça va. Si tu avais fait F5, on aurait vu qu'on était passé dans la partie lunch et qu'on était terminé.
C'est, ouais, c'est vrai.
C'est ce qu'on avait prévu, non?
C'est ce qu'on avait prévu dans la démo. Okay. J'ai foiré ma démo, pardon.
Admettons, activation, protocole, donc démarrage différé, entre guillemets, débugage de suspend de la terminaison, ouais, avec bye-bye, avec d'autres outils. Donc, pour information, tous les outils dont on voit sont publics et gratuits. Donc il suffit de les rechercher sur le blog de Christophe ou autre, etc.
J'en profite. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, pendant qu'on y est?
C'est à la fin des questions. Okay. Donc, ok, démarrage, suspend, résume. Mais lorsque l'application tourne, tu le sais aussi bien que moi, en .NET, on peut avoir des applications gourmandes, consommatrices, de mémoire, etc. Comment on débug simplement une fuite de mémoire?
Bon, alors, il faut qu'on donne tous nos secrets. Alors.
Non, mais une partie.
Mais... Bon, alors... Une manière assez simple de réfléchir à ça, c'est comment on surveille la bonne santé de nos applications. Ça s'applique à toutes les applications, c'est pas lié juste à Windows Store App. Donc j'ai un petit truc rapide quand j'essaie d'expliquer ça. C'est toujours en trois étapes. On fait un diagnostic pour savoir qu'est-ce qui se passe, dans quel état est l'application. Après, on investigue en fonction du diagnostic qu'on a pu faire. Et après, on fixe. C'est quand même ça qu'on veut à la fin. Donc ça fait diff. Et diff, c'est exactement ce qu'on veut faire pour une fuite mémoire. T'as vu comment c'est
joli. T'as une application pour nous montrer ça?
J'ai une application. Alors je vous ai donné un titre, ça s'appelle Manage Leak. Ça, pour ceux qui comprennent parfaitement l'austro-hongrois, ça veut dire que elle va consommer un petit peu de mémoire.
Ok, donc là, Process Explorer, sysinternals toujours.
Process Explorer, sysinternals.
On regarde, pour le coup, pour la démonstration, on regarde tout ce qui est private byte, donc c'est-à-dire la mémoire réellement utilisée par le processus.
Bon, on va créer que cet outil-là, il est capable de détecter les applications Windows Store. Il les met en joli bleu.
Ok, donc
là,
on
double clique.
400...
Parce que je suis feignant, moi. Je ne veux pas regarder les machins qui bougent avec les. Donc vous double-cliquez sur la ligne. Hein, et vous pouvez comme ça avoir rapidement, vous pouvez faire la même chose avec plein d'autres outils, hein, mais celui-là il est vraiment le plus simple. Et donc là je vais naviguer dans mon application.
Okay.
Regardez bien le magnifique géant vert. Plouf, 156 MB. Celui-là, 156 MB. Regardez là. Et là, je vais revenir. Boum, 223.
Okay. Donc moi,
je m'arrête là ou je continue?
Non, tu peux t'arrêter là. Donc avant, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelques dumps séparés, on navigue, on a une différence, et puis après on ouvre WinDBG et puis on y va à la mano, quoi.
Mais alors ça c'est comme dit ma fille, ça c'était avant papa.
D'accord.
J'en avais marre de faire ça à la main, je me suis fait mon propre outil. Hein. C'est tellement ça devenait. Voilà. Donc ce qu'on n'a pas enlevé encore, mais bon peut-être que ça va changer, c'est qu'il faut quand même que je prenne un dump.
Ok. Bon, prends
mon process. Ça va.
Ok.
Ça va. Alors je vais.
Donc là c'est proc dump aussi, sysinternals.
Voilà. Sysinternals.
Proc dump.
Alors
je. Ou AD+, comme vous préférez, fourni avec des bagages Windows.
Ah. Je vais aller.
Si vous avez des questions sur les outils ou quoi que ce soit, on vous montrera tout sur nos blogs respectifs. Mais bon, là, c'est des outils communs que tout le monde doit posséder.
Donc, je me suis fait un petit répertoire dans lequel je mets mes dumps. Je suis assez, parce que ça peut être gros des dumps. Hein, donc
vas-y.
Un petit endroit. J'y vais. Et j'appelle proc dump. Je lui dis qu'il faut qu'il me prenne un full dump. C'est-à-dire, c'est la seule ligne de commande dont il faut que vous vous rappeliez pour être capable d'analyser le contenu de la mémoire qui va être dans le process. N'oubliez pas le moins MA. Vous lui donnez le process ID. Donc le process ID, c'est 5660. Merci. 5660. Ça, on ne peut pas le hardcoder dans la démo parce que ça change à chaque fois. C'est ballot. Et c'est mon premier dump. Ah oui, bah oui. Si en plus, je ne mets pas les bons chemins.
C'est sur ma machine, moi, je vais dans le pass.
Ouais. J'ai plus l'habitude de taper avec mon... Allez, c'est bon.
Donc là, tu navigues un petit peu, tu en prends un second, c'est ça?
Ouais, je vais en prendre un.
Au moins qu'il y ait une différence.
Une fois... Je reviens.
Donc là, je reviens.
J'en
avant,
prends un deuxième.
Avant ces dumps-là, je les ouvre chacun dans mon WinDBG.
Ouais.
Je fais des dumps moins stat, je regarde un petit peu.
Après, je fais mon cacou avec les lignes de commande, des trucs, les machins. Okay. Je fais des diffs et tout.
Tu vas pas me sortir une option en Visual Studio encore?
C'est pas une option, c'est une feature, monsieur.
Ok.
Une option. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de ce répertoire-là et je vais faire un drag and drop des deux dans Visual Studio.
Non, mais il n'y a plus de commandes à taper, il n'y a plus rien là.
On pouvait déjà le faire avant, là, je triche, mais ce qui change un petit peu, c'est que, bon, c'est vrai que là, ça ne porte pas grand-chose pour notre question ici.
Donc, on a les modules, etc. Donc là,
ça ressemble à du WinDBG. Hein. Mais il y a des petites choses en plus là, sur les côtés. Là. Sur les côtés, on a un Debug Manage Memory.
Vas-y, vas-y, clique.
Je clique, allez, je clique. Debug Manage Memory, il va passer un peu de temps, il va regarder ce qu'il y a dans le heap et il va nous offrir une vue de tous les objets. Alors moi, j'ai mis un petit settings pour éviter d'avoir du bruit qui s'appelle View Settings.
Tu ne l'as pas mis, c'est par défaut, Christophe. Arrête.
Pardon ?
C'est par défaut, tu ne l'as pas mis.
Oh, d'accord.
Mais donc là effectivement, c'est pas possible. On voit nos objets, pour le coup.
On voit nos objets.
Mais ça ne m'avance pas forcément, parce que là, tu as ouvert le second dump. Ouais. Donc, je n'ai pas de différence, par contre. Voilà.
Donc, dans mon diff, je veux faire un diff, une différence. Je vais comparer avec mon premier. Donc là, je vais choisir mon premier. Et là, magiquement, il va faire la comparaison pour moi. Ça c'est ce que mon outil faisait. J'ai développé avec mes petites mains. Ben, maintenant, on n'a plus besoin.
Non, pas mal.
Ah, plus besoin. Tout est dedans, tout est dans okay, le Visual Studio.
J'ai 12 objets de type Simple Data Group, okay, mais ouais. Tu sais qu'en .NET, si l'objet n'a pas été libéré, c'est que quelqu'un garde une référence dessus. Comment je récupère l'objet qui est la racine?
Bah, c'est la question qu'on se pose tous quand on doit chercher les raisons d'une fuite mémoire en .NET, hein, c'est qui me tient? Qui me tient par la barre du 7, et ben, c'est là où effectivement ça devient encore un peu plus velu dans WinDBG avec des GC routes et on ne comprend plus rien. Là, ils ont quand même simplifié dans Visual Studio. On choisit une instance et quand on a pass to root en bas, là, on a les liens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon instance qui est à cette adresse-là de sample data group est tenue par une liste de sample data group qui est lui-même tenu par une observable collection. C'est l'implémentation de l'observable collection qui tient une liste. Et cette observable collection, elle est tenue par mon sample data source, qui, ça, c'est vraiment mon code à moi. Ça.
Donc là, il n'y a pas que moi qui fais des erreurs. Donc toi aussi, tu as dû remplir
facile,
ta source ça. Un peu trop.
C'est facile. Ça. Bah, maintenant, on a fait le diagnostic, on a fait l'investigation. Maintenant, il faut qu'on trouve un fixe. Donc comment on fait? Bah, on va dans le code de l'application. Donc je vais dans mon application, ManageLeak. Il faut que je cherche les endroits dans mon code, comme c'est moi qui l'écris, je sais en gros où c'est. Et comme c'est pratiquement l'implémentation standard d'une application Windows Store, on a un sample data source qui contient une observable collection, tout ça. Et dans l'implémentation qui en est faite ici, il s'avère que toutes les méthodes appellent getSampleDataSourceInc, qui va les lire dans un fichier JSON toutes les petites valeurs par défaut qui ont été générés pour vous par Visual Studio. Ah super non. Facile, c'est fait pour vous.
Donc, tu as fait l'erreur bête de la remplir à chaque fois. Quoi,
J'ai juste fait ça, et puis voilà, quoi, il va le rajouter. Et comme cette méthode-là, elle est appelée dans chaque méthode quand je vais naviguer, donc il y a un petit problème de perf parce qu'il va aller lire le fichier, il consomme un peu de mémoire, et le fixe est simple, hein, j'ai juste à vérifier que je n'ai pas déjà chargé.
Ok.
Ma liste. Ça non, va
pas mal, oui. Ça va. Bon, j'aurais aimé voir WinDBG, mais bon, c'est pas mal quand même.
Alors,
ok, fuite mémoire, ok, mais ouais. Tu sais, il y a des soucis aussi où on peut avoir une pression mémoire un petit peu élevée, donc on essaye d'investiguer pourquoi on a autant de mémoire par l'application.
Ouais.
J'ai un exemple à te montrer sur la partie JavaScript.
Ah non, JavaScript, c'est pas moi. Ah. Non, JavaScript, okay. Excusez-moi, on a chacun nos JavaScript, j'ai pas le droit d'y toucher, mon médecin m'a dit que...
C'est pas dit que j'étais expert JavaScript, mais...
C'est pas bon.
Donc juste pour vous montrer, effectivement... Donc j'ai une petite application que j'ai ici. Donc cette application-là, si j'avais les raccourcis clavier, mais j'ai juste utilisé le modèle par défaut, vraiment sans aucune modification, JavaScript, Windows Store, donc, bon. Grid d'application, rien de plus. J'ai juste modifié dans cette application-là la partie data.js qui remplit mes données à l'écran. Donc là, j'ai juste pris quelques images. J'ai demandé à Christophe aussi de m'envoyer quelques photos intéressantes. Et j'ai créé trois groupes. Et dans chaque groupe, j'ai rajouté des éléments en utilisant mes images à chaque fois. Donc c'est la seule modification que j'ai faite dans le modèle par défaut. Donc je m'attends à ce qu'il ne soit pas trop consommateur. Donc, or, lorsque je le lance, il y a vraiment une mémoire phénoménale. Donc pour l'investiguer directement, je lance la partie analyse et la partie profilage memory JavaScript. Et là, tu vas voir, très intéressant, via le lancement d'application, il va profiler un petit peu l'utilisation de mémoire que je fais dans mon application. Donc tout simplement, je peux aller naviguer dans mon application, regarder les différentes images. Très simple. Je reviens sur mon bureau, j'ai l'évolution, je peux éventuellement faire des captures.
Il ne faut pas que je prenne un dump.
Donc tu vois, je n'ai même pas à taper, j'ai juste une main.
Hein. Sans les mains.
Et là, tu vois, 850 MB pour une application qui est le modèle par défaut avec juste quelques images. Donc, je ne sais pas quel type d'image tu m'as donné.
Je t'ai donné des très très belles images. Je pense qu'on est tous là, elles sont très belles. Mais j'ai fait attention. J'ai fait attention, normalement elles ne sont pas grosses.
On verra. Je vais vérifier. Mais juste pour montrer, effectivement, on peut faire plusieurs captures. Et surtout, on peut comparer. Donc, il n'y a pas que toi qui compare des dumps, etc. Donc, là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la comparaison, c'est plutôt regarder qu'est-ce qui contient, qui me fait avoir 850 mégas de mémoire. Et donc là, je peux trier. Typiquement.
C'est pas vrai.
Donc, attends. Tu rigoles?
Non, je t'ai pas dit des images. Non.
820 pour les images.
Je te jure, c'est pas moi.
H3.
C'est pas moi.
Domo Milan.
Non, c'est pas moi. Okay. Enfin, c'est moi qui les ai prises, mais elles font pas 200 mégas.
Ok, j'arrête le profiling. On va vérifier ça.
Bah, j'espère qu'on va vérifier ça.
Alors, les images, on a dit H3 et puis Milan, c'est ça?
Milan.
H3, Milan. 14 mégas.
Bon, celle-là, c'est la seule que je t'ai laissée grosse. Milan, elle fait 4 mégas.
Ouais, pour aller à 850, c'est bizarre. Ah, par contre, attends, c'est quoi ces résolutions d'images là? 17 000 par 4 000.
Des panoramas, il faut que ça s'imprime sur.
D'accord. Mais t'imagines que 17 000 fois 4 000 pixels fois 32 bits de profondeur, décompressé à Windows, c'est hallucinant.
Ah, ça pourrait expliquer les.
Alors que là, on est en 1024.
Donc c'est vrai qu'en plus, on est qu'en 1024.
Donc là, il faudrait quand même ouvrir l'image, on peut la redimensionner, je peux la mettre en 800 par exemple.
Ça, c'est ton fixe alors. Le fixe, c'est je choisis la résolution. Je pourris mon image. Ah non, en fait, elle va pas être pourrie, c'est ça le truc.
Donc là, 800, effectivement. Donc là, je vais pas le faire automatiquement. J'ai une autre solution qui est celle-ci, fixed. Donc c'est la même application. La seule différence, si on regarde au niveau des images, donc la taille a diminué. On n'est plus à 4 mégas, 14 mégas. Et la résolution, je les ai capées à 800. Ouais. Donc si je regarde avec mon Visual Studio ici, je vais fermer quelques fenêtres. Voilà. Je reprends la solution non fixée ici. Je refais une analyse éventuellement. Ou pas d'analyse, CTRL F5, mais comme je n'avais pas le clavier sous la main. Donc là, les images, elles sont tout à fait classiques, mais tu vois, on n'a pas forcément une
résolution.
Ça,
c'est la version que tu n'as pas fixée,
voilà.
C'est ça?
Oui, tout à fait. Mais tu vois, là, au niveau de la qualité, on va voir que la résolution que j'ai fixée n'est pas forcément pire. Donc là, je prends celle-ci. Là, par contre, je vais lancer l'analyse. Memory. C'était juste pour montrer la qualité des images.
Elles sont toujours aussi belles, les images.
Donc là, c'est pas forcément.
Reste sur Milan, elle est belle, Milan.
Ok, je reviens ici, snapshot. 3 mecs. Je reviens dessus.
Juste avec Paint.net, sans changer le code.
Voilà, effectivement.
C'est énorme.
Parce que décompressé, ça fait 500 kilos. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous montrer.
Ah, c'est très bien. En fait, cette démo, elle est. C'est le départ d'une petite discussion sur le coût des ressources que vous faites afficher par vos applications. Alors, il y a cette partie qu'on a vue là, c'est-à-dire dans vos informations elles-mêmes avec ce que vous pouvez récupérer du net, ce que vous pouvez mettre dans votre package. Ce n'est pas la peine du tout d'utiliser des résolutions qui seront largement plus grandes que ce qu'il va y avoir dans ce que vous allez afficher. Parce qu'il y a ce syndrome de consommer de la mémoire, mais ça peut aussi ralentir. Parce que vous imaginez bien que la création de ce genre d'image, sur des machines, moi j'ai une machine de course, mais sur des tablettes, on peut avoir un vrai ralentissement au niveau du chargement, voilà. Et ça peut rendre beaucoup moins fluide votre application, pour aucune bonne raison.
Et sachez qu'effectivement, la partie Windows Store permet d'avoir plusieurs images de résolution différente, avec les scale, le sound, le sound, etc., pour éventuellement adapter le format des images, la taille des images en fonction de la résolution. Et c'est Windows qui se chargera de charger la bonne image en fonction de la résolution. C'était juste pour montrer la partie diagnostic de Windows qui va s'améliorer au fur et à mesure des versions et qui va proposer d'autres éléments dont on ne peut pas forcément parler pour la partie .NET, etc.
On espère bien que ça va venir.
Ok. Activation, suspend, terminaison, mémoire. On a bien développé notre application, on l'a soumis au store. On a bien fait des choses,
ça devrait marcher. Ça devrait marcher.
Est-ce que tu as un exemple d'application que tu as soumis, un rapport?
Oui, il y a... Pas forcément tout le temps bien codé, mais là, on avait fait tout ce qu'on a vu là, on s'assurait que tout marche bien. On a lancé le WAC, après avoir compilé votre application en mode release avec Visual Studio, on a vérifié que le rapport...
Vas-y, montre-nous le rapport.
Alors, je dois avoir ça. On doit avoir... Certification de fêlure. Donc ça, ça doit être... Le rapport.
Donc là, l'outil de certification locale que tu as exécuté sa machine, donc il vérifie dit, l'encodage, bon, le démarrage, etc. Donc très bien. Donc tu l'as soumis.
Et donc là, on soumet au store en disant bon, bah voilà.
Voilà. Voilà.
Et puis là.
Tu te reconnectes sur le portail.
Et là, je me reconnecte sur le portail. Et puis là, là c'est moins joyeux parce qu'il est. Il est failed, quoi. Alors il est failed, regarde là, failed. Content de compliance. Failed.
Pourtant, il est bien ton.
Fail, hein. Quoi? Does not machin, question. Est-ce qu'on a besoin Merck Purchase, Common, voilà. Fail, non-functional section.
Donc là, comment on fait pour débugger ça? Parce qu'au final, on n'a plus la main. Quoi.
Ouais. Bah, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est lire jusqu'en bas. Parce que ça décourage. Ça décourage. Mais comme on est très fin, on met l'information importante tout en bas. Pour que. Hein, c'est du teasing, ça. On a presque pu écrire des films. Donc tout en bas, qu'est-ce qu'il dit ? Note des testeurs. Alors malheureusement, quand la personne a essayé de lancer votre application, elle n'a pas réussi à chaque fois. Ça a foiré tout le temps. Alors, c'est possible. On a tout essayé sur notre machine, tout marchait bien, en release, et il nous dit, ben, ça serait bien si vous voulez avoir plus d'informations. Récupérer l'information que nous, on a mis pour vous là-dedans.
Donc tu l'as récupéré.
Ouais, moi je fais ce qu'on me dit de faire. Hein. Voilà. Et donc là, on récupère un point zip dans lequel on a des fichiers. Et dans ces fichiers, hein, y en a un qui s'appelle memory.hdmp. Donc ça, c'est un dump de la mémoire. Alors c'est un mini dump, hein, parce que si on dumpait vraiment, on aurait des centaines de mégas. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la démo. Là, on a juste que 36
attends,
mégas.
Attends, tu vas pas l'ouvrir avec Visual Studio, quand même.
Non.
Tu vas ouvrir avec WinDBG. Ouais. Allez, vas-y.
J'ai le droit quand même. C'est pas drôle. Donc là, je lance mon WinDBG et je peux aussi faire un WinDBG
outil de débugage fourni avec les debugging tools Windows.
Non, ouais. Absolument.
Ok.
Juste un tout petit truc. Pensez bien lorsque vous avez un dump, s'il est 32 bits, à le charger avec la version 32 bits x86 de WinDBG, et si vous avez un 64 bits avec la version 64 bits. C'est le seul truc où il faut vraiment faire attention. Après, c'est juste simple. La première chose à faire, c'est d'appuyer 5 fois dans cette toolbar. 1, 2, 3, 4, 5. C'est obligatoire, sinon ça ne marchera pas. Hein, ça ne marchera pas. Et donc, je vais changer la couleur de mon texte.
On peut repérer, se mémoriser le nom. Ah,
c'est pour vous, et puis on va rester dans le ton. Donc ça, c'est un outil qui n'est pas Modern App. Hein. Ça, clairement, il est pas Modern App. Et il y a plein de lignes de commande et il y a plein de textes en hexadécimal partout. Et ça n'arrive même pas à se rafraîchir correctement. Il y a un bug là-dessus. Hein. Rigolez pas, il y a un bug en interne là-dessus.
Donc là, ceux qui ont débugué du .NET classique avec des extensions comme SOS ou PSS Core, on peut toujours le faire. Sauf que là, on a un mini-dump, donc on n'a pas les objets à mémoire. Ouais. Mais ce qui nous intéresse, c'est des crashs. Donc, tu peux charger SOS à ce moment-là directement.
Alors déjà, effectivement, a priori, ça j'aime bien parce que ça, ce que j'aime bien, c'est ça. Il y a une exception intéressante hein, dedans. Hein, donc, à vous de la trouver.
Alors, okay.
C'est pas moi qui l'ai fait celui-là. Alors, donc là, on commence à se dire bon, je suis dans WinDBG, tout ça, je suis hyper fort, non exception. Là, ça démarre mal parce que déjà je la connais pas. Déjà, alors ça, elle est pas bien. Elle est en, on sait pas du tout ce que c'est que ce truc-là. First chance. Donc j'ai aucune information ni de première ni de deuxième chance. Hein. Donc là, j'ai zéro chance. Et puis lire dans les registres.
Je sais pas.
Non, t'as arrêté aussi, toi. Ouais. Et ce qu'on a ici comme info, c'est qu'a priori, il y a du WinRT dedans, parce que si vous connaissez un tout petit peu l'API, c'est une réimplémentation améliorée de COM. Et tout ce qu'on avait dans les co-create instance, dans les co-initialize, maintenant, c'est des raw quelque chose pour runtime object. Donc il y a bien du WinRT en dessous.
Admettons.
SOS. D'accord, je vais charger SOS.
Donc SOS, c'est une extension qui permet de pouvoir exécuter des commandes de plus haut niveau et éventuellement afficher les piles d'appels managées, les objets si un dump était complet, etc. Ouais,
exactement. Donc là, il nous met un petit warning. Il nous dit, bon, Ce que je suis en train de regarder, c'est juste un mini-dump. Hein. Donc, mini-dump, vous aurez des mini-informations.
Tu peux regarder la pile d'appel du thread, éventuellement. Parce que quand il y a un crash, on va voir l'exception sur la pile d'appel.
Ouais. Voilà. Alors ça, c'est... ça nous parle beaucoup. Hein. Donc, la pile, hein, c'est-à-dire qu'on est parti de là. Donc, intuitivement, on est venu de WinRT dans la CLR. Bon, il essaie de remonter, il essaie de charger des trucs, il essaie de p-invoke. Là, je t'avoue que c'est un peu
okay.
Pas facile. Hein. Ah si, on a un raw report un handle error. C'est bien.
Ouais. Il matin, n'y a pas un mécanisme comme quoi la dernière exception est mémorisée là
ouais, trop fort. La CLR garde dans une variable globale une référence sur la dernière exception non handlée, c'est-à-dire sur laquelle vous n'avez pas catché. Et on a du bol, parce que cette variable globale, elle est dans le mini-dump. Est-ce que quelqu'un connaît la ligne de commande pour récupérer la dernière exception managée? C'est qu'on n'a pas de goodies, mais sinon... mon t-shirt, pour ceux... Non. Vas-y, Seb.
Banque PE.
Ouais, alors je vais faire un premier truc avant. Si jamais vous voulez, vous avez un petit ordi, vous faites juste help, et vous avez la liste de tout... Ça marche pas, le help non plus? Merde. Tu vois, j'ai voulu être sympa et ça marche.
On l'a sur la MSDN, effectivement, la liste de télécommande. Mais bank PE pour print exception pour avoir la dernière exception qui était stockée.
Ah, il est venu quand même, plus tard. Alors.
Voilà. Alors, effectivement, l'aide est venue plus tard, vous l'avez en haut. Et pour faire un bank help avec le nom de la fonction derrière.
Ah, vous avez toutes ces méthodes-là. Voilà. Bon. Okay. Donc le bank PE, c'est au lieu d'écrire point d'exclamation, parce qu'il dit bank parce que c'est, ça fait plus.
Ouais, soirée, ça fait plus. Ouais,
ça fait mieux que point d'exclamation PE. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit là? Déjà, ça nous parle vachement plus là. Il nous dit. J'ai une exception, unauthorized access exception, et le message est access is denied.
D'accord. Mais là, regarde, ouais, donc là, on voit plus parce que picture tile.
Ça, c'est le nom de mon application, ça.
Voilà.
Ça, c'est moi, ça.
Photo tile main page on navigated to move next.
Alors, c'est pour ceux qui ont regardé comment était implémenté le async await. Ça va leur parler tout de suite. Aux autres, non. Mais à ceux qui l'ont regardé, il faut juste voir que ça, c'est le nom du type. Donc c'est main page, et ça c'est le nom de la méthode qui est une méthode async. Et donc dans la méthode async onNavigatedTo, j'appelle current app simulator getID. Ça c'est quoi? Ça veut dire j'appelle la propriété appID du type current app simulator.
Donc c'est ça en fait au final.
Ah, c'est mal. Pourquoi est-ce que c'est mal? Parce que avant d'envoyer ça, j'ai fait plein de tests. Pour in-app purchase, enfin, l'API qui est fournie par le store, pour détecter si jamais j'avais des nouvelles fonctionnalités dans mon application, etc. Et j'ai juste oublié que ça ne peut marcher que sur une machine qui a une licence de développeur d'installer. D'accord ? Quand vous lancez Visual Studio, vous savez, toutes les 30 jours, il vous dit ramenez la licence de développement sur la machine. Sinon, vous n'avez pas le droit de débugger et d'installer vos applications. Et ben, c'est exactement la même chose. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et ben, j'ai oublié de protéger mon code. Et le cas le plus simple, c'est de faire un if define debug, puisque vous savez que vous n'allez jamais envoyer en release. Voilà. Pardon, vous n'allez jamais envoyer en debug. Donc vous faites un if dev debug. Là, vous êtes en current app simulator.
Donc le vrai objet, c'est le current app.
Voilà, et l'autre, c'est le current app. Donc il faut juste que j'enlève ça partout. Voilà. Je le protège bien et je mette current app.
Voilà, on a fixé le problème.
C'est bon?
Donc juste un parenthèse, avant que vous applaudissiez de façon nourrie, sachez que tout ce que vous connaissez sur la partie débugage avec SOS ou PSS Core, lorsque vous avez des vrais dumps pris avec procdump ou AD+, toutes les commandes que vous connaissez, si vous êtes habitué, vous pouvez les exécuter de la même façon.
C'est lamentable de nous applaudir, je trouve ça lamentable.
Merci à vous de nous avoir écoutés en tout cas.
Ouais. Merci beaucoup. Votre attention.